Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Votre journal des sports de ce mardi 28 juin 2022. On ouvre avec du cyclisme, J-3 avant le départ du Tour de France qui s'élance vendredi exceptionnellement de Copenhague au Danemark. Et ce coup de tonnerre, Julian Alaphilippe n'y participera pas au Tour de France. Le champion du monde en titre, gravement blessé il y a 2 mois, ne figure pas parmi les 8 coureurs retenus par l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl. C'est le sprinter Fabio Jakobsen qui sera à la tête d'affiche. Julian Alaphilippe se dit diminué, c'est difficile à encaisser car j'ai travaillé dur pour ça. Je n'aurais pas supporté de passer mon mois de juillet à souffrir, à être juste là parce que ça fait plaisir aux gens, c'est ce qu'il a déclaré. Autre absent de taille sur ce Tour de France, c'est Mark Cavendish. L'as du sprint ne pourra donc pas défendre son maillot vert de l'année passée et surtout ne pourra pas tenter de dépasser le record de 34 victoires sur le Tour de France détenu par Eddy Merckx. Lui non plus ne prendra pas le départ de la grande boucle, lui c'est Florian Sénéchal. Comme Julian Alaphilippe et Mark Cavendish, eh bien Florian Sénéchal n'a pas été sélectionné par l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Le coureur de 28 ans est pourtant en grande forme puisqu'il vient d'être sacré champion de France dimanche à Cholet. Il s'agit du premier titre national pour Florian Sénéchal. On écoute le coureur de 28 ans.
Oui, c'est vrai que porter les couleurs de son pays c'est toujours quelque chose. Et c'est une fierté et j'espère le montrer le plus possible en gagnant des courses et en levant les bras avec le maillot champion de France. Et ce serait quelque chose encore au-dessus de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était un scénario idéal pour moi et c'est ce que j'attendais. J'étais confiant de mes jambes, mais confiant de ma puissance pour le sprint. J'aime bien quand c'est des courses longues et intenses comme aujourd'hui. J'ai fait une course vraiment comme je voulais et je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Mais j'ai hâte d'avoir ma tenue et de le rouler avec chaque jour.
Du côté des femmes, c'est Audrey Cordon-Rago qui s'est imposée. La Bretonne de 32 ans l'avait déjà emportée en 2020. Christophe Iremzian pour RFI.
Audrey Cordon-Rago, oh là là, oh là là, que c'est serré. Et c'est Audrey Cordon-Rago qui obtient deuxième titre.
Les gouttes de pluie sur la ligne d'arrivée se mêlent aux petites larmes de joie sur son visage, sûrement moins grosse que jeudi lorsqu'elle gagne aussi le contre-la-montre. Mais tout de même, Audrey Cordon-Rago renaît après les doutes et la douleur, un Covid sévère qui la laisse à plat et avec des points d'interrogation sur son niveau. Son doublé, le premier depuis Pauline Ferrand-Prévot en 2014, est une belle revanche sur le sort.
Ça a été vraiment très compliqué pour moi, j'ai beaucoup souffert, beaucoup été dans le doute. Voilà, je l'ai déjà dit au contre-la-montre, j'arrivais ici avec des gros points d'interrogation sur ma forme et sur comment j'allais m'en sortir et j'ai mes réponses.
Au dernier tour, c'est pourtant une autre championne de France, Jade Yael, qui fait le spectacle. Mais la coureuse de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine, pourtant l'une des plus puissantes du peloton, se relève vite, les fourmis dans les jambes à 6 km de la ligne. Audrey Cordon-Rago s'en va. La jeune Gladys Verhulst, toujours placée, jamais gagnante, encore battue à la pédale. Être dauphine pour la 3e fois passe difficilement.
C'est toujours dur à digérer. Après, dans quelques jours, je dirais que j'ai fait une belle course et je peux être que fière de moi parce que je pense que j'avais vraiment des jambes de feu, un mental de feu. Elle sait que je suis rapide, donc je pense qu'elle a joué avec ça aussi. Après, elle a plus d'expérience. Moi, je suis jeune, je pense un peu excitée entre guillemets par le titre, donc je vais être vite déstabilisée. Pourtant, dans ma tête, je m'étais dit avant la course, surtout ne te fais pas déstabiliser par qui que ce soit, et au final, elle a réussi.
Mal récompensée aussi, la médaillée de bronze, Noémie Abgral, aux avant-postes tout l'après-midi. Mais pas de regret pour la coureuse du Stade Rochelet, formation de l'antichambre de l'élite mondiale.
Elle a une saveur de médaille en or pour moi, pour l'équipe. On jouait quand même un peu battu sur un circuit comme ça, on n'a pas vraiment de sprinteuse. Le but, c'était vraiment de durcir la course. Après, au final, derrière, ça a mis du temps à revenir en route. Moi, je comptais que ça revienne un peu plus vite pour venir m'aider. Mais j'ai su gérer mon effort, même si j'avoue qu'au milieu, je passais plus de relais parce que je crampais, j'étais dans le dur. Et ramener cette 3e place, c'est vraiment un bonheur pour l'équipe.
Un bonheur non dissimulé pour Audrey Cordon-Rago de pouvoir se parer de bleu, blanc, rouge de la Tour Eiffel aux Champs-Élysées le 24 juillet pour la première étape de prestige du Tour féminin.
C'est juste le rêve de n'importe quel cycliste français, je pense, homme, femme, tout confondu. C'est le plus beau maillot du peloton, après le maillot jaune peut-être, ou le maillot arc-en-ciel. Mais en tout cas, C'est un maillot que je respecte énormément et il va encore plus briller évidemment parce que ce maillot-là, c'est peut-être le plus encouragé sur les bords de la route. Ça va être juste énorme.
Énorme comme sa semaine de rêve après des mois de cauchemar. La Bretonne compte bien honorer sa tunique sur le Tour avec une victoire d'étape pour ajouter un autre grand souvenir à sa carrière qu'elle espère finir en apothéose aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Du tennis et le tournoi de Wimbledon qui a débuté hier à Londres et sous la pluie. Marin Cilic qui a été testé positif au Covid-19 est forfait pour ce troisième tournoi du Grand Chelem de l'année. Tournoi dont le grand favori cette année, en l'absence de Roger Federer toujours convalescent, est Novak Djokovic. On écoute ce reportage d'Éric Mamrut avec les relances de Martin Guez pour Radio France Internationale.
Novak Djokovic, déjà 6 fois vainqueur, arrive à Londres mort de faim, frustré par sa récente défaite en quart de finale de Roland-Garros face à Nadal. Frustré aussi d'avoir été privé de l'Open d'Australie en janvier à cause de son statut de non-vacciné, comme il le sera certainement également de l'US Open en septembre pour les mêmes raisons. Autant dire que c'est ultra motivé que le Serbe triple tenant du titre aborde ce Wimbledon avec l'espoir d'imiter Pete Sampras, Björn Borg et Roger Federer, les 3 seuls joueurs à avoir enchaîné 4 couronnes consécutive dans le temple londonien du tennis. Novak Djokovic.
Aujourd'hui, je ne suis pas autorisé à entrer aux États-Unis et donc oui, cela me donne une motivation supplémentaire pour ce Wimbledon. J'espère faire un aussi bon tournoi que lors des 3 dernières éditions. J'adorerais être en position de décrocher un 4e titre consécutif et d'écrire ainsi un peu plus l'histoire de ce tournoi. Vous savez, c'est en regardant Pete Sampras gagner son premier Wimbledon en 1993 que j'ai commencé à rêver de remporter ce trophée, de devenir numéro 1 mondial. J'avais à peine 7 ans et c'était le premier match que je regardais à la télévision. Pete a gagné 7 fois ici, j'espère faire aussi bien que lui cette année.
Novak Djokovic qui veut aussi réduire l'écart avec Rafael Nadal, l'Espagnol qui avec désormais 22 titres du Grand Chelem remportés devance le Serbe de 2 longueurs.
Justement Rafael Nadal qui sera une fois de plus le rival numéro 1 de Novak Djokovic lors de ce Wimbledon.
Déjà parce que plusieurs cadors du circuit sont absents. En tête, le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, interdit de Wimbledon, tout comme les autres joueurs russes et biélorusse suite à la guerre en Ukraine. Son dauphin, l'allemand Alexander Zverev, est lui forfait sur blessure. Rafael Nadal se retrouve donc tête de série numéro 2 de ce tournoi. L'Espagnol qui marche sur l'eau en 2022, même sur un seul pied puisqu'il a remporté l'Open d'Australie et Roland-Garros en dépit des douleurs qui tenaillent son pied gauche depuis 1 an et demi, qui tenaillait son pied gauche apparemment puisque le traitement expérimental auquel il s'est soumis au sortir de son sacre parisien semble fonctionner. Les sensations sont bonnes. Pour combien de temps, Rafael Nadal ne le sait pas lui-même, en tout cas si son pied le laisse tranquille. Il tentera de remporter Wimbledon pour la 3e fois de sa carrière après 2008 et 2010. Pour empêcher Djokovic et Nadal de se retrouver en finale, l'Italien Matteo Berrettini, finaliste sortant, le Grec Tsitsipas, voire Carlos Alcaraz, le jeune Espagnol, figure parmi les rares outsiders de ce tournoi.
Et puis chez les femmes, un an après sa dernière apparition, la revenante, la reine Serena Williams, qui fait son grand retour en simple.
À 40 ans et désormais débarrassée de ses blessures, l'Américaine va tenter à Londres de relancer sa carrière en vue de conquérir enfin le 24e titre du Grand Chelem qui lui manque pour égaler le record de l'Australienne Margaret Court. Mais les favoris de ce Wimbledon sont plutôt à chercher du côté de la Polonaise numéro 1 mondiale Iga Swiatek, de la Tchèque Karolina Pliskova et d'Ons Jabeur, oui, la Tunisienne victorieuse à Berlin dimanche dernier qui va étrenner demain son tout nouveau statut de 2e joueuse mondiale.
En tennis toujours, après plus de 2h40 d'une lutte acharnée, la Française Caroline Garcia s'est offert le tournoi allemand de Bad Homburg. Elle s'est défaite de la Canadienne Bianca Andreescu en 3-7, 6-7, 6-4, 6-4. Pour la numéro 75, ancienne numéro 4 mondiale, il s'agit de la première victoire depuis 2019, son 8e titre au total et le 3e sur herbe. Juste avant le début de Wimbledon, c'est plutôt un bon signe. On écoute Caroline Garcia.
Je suis super heureuse, c'est vraiment un sentiment incroyable. J'ai déjà gagné des tournois dans ma carrière, mais tu sais jamais quand est-ce que tu vas en gagner un autre ou quand est-ce que tu vas être en finale. J'étais déjà super heureuse d'être en finale et j'ai vraiment fait mon maximum aujourd'hui pour me battre jusqu'au bout, continuer à être positive et remporter le trophée, c'est incroyable. Évidemment, ça donne un coup de boost et à voir ce que ça donne le reste de la saison.
du basket féminin et les Bleus ont remporté leur premier titre mondial dimanche soir à Anvers en Belgique dans la catégorie 3-3. Les Françaises affrontaient les Canadiennes, elles l'ont emporté 16-13, un an après leur quatrième place frustrante aux Jeux Olympiques. Quelques minutes avant, c'était les hommes qui jouaient, ils ont arraché le bronze au bout d'une prolongation interminable contre la Belgique, 18-17. Et ce, malgré l'absence d'Antoine Aito, blessé à la cheville gauche lors de la demi-finale perdue contre la Lituanie. C'est Franck Seguela qui a libéré les siens en inscrivant le panier de la victoire. On écoute son coéquipier Léopold Cavalière. Il s'exprimait juste après la victoire.
Today the win was in our heart. We were only three. That's an incredible effort from our three. And the fourth one, who was injured, was pushing us every second. And that's all about heart. I'm a bit honest with you. There's still a bit of disappointment because of the semi-final. You know, I want more. And the three other guys, they want more also. So we're going to come back. Maybe it's not going to be us four. Maybe it's going to be somebody better. We don't care. We want France on the top of the world. That's going to be next World Cup, the one after. I don't care, but we're still hungry.
On en vient maintenant au championnat de France d'athlétisme qui s'est déroulé ce week-end à Caen avec le concours du saut à la perche et le duel Lavillenie-Collet que nous raconte Frédéric Suteau.
Thibaut Collet a décidé d'arrêter donc son concours. Il sera champion de France du saut à la perche. Vous pouvez l'applaudir.
C'était un temps à ne pas mettre un perchiste dehors. La température était idéale, pourtant 20 degrés. La pluie annoncée n'est pas tombée non plus, mais le vent était là. Caen, la Normandie, un vent capricieux qui a pourri littéralement le concours de la perche. Valentin Lavillenie en a fait les frais. Une bourrasque terrible alors qu'il était dans les airs pour tenter d'effacer une barre à 5,70 m. Il est retombé méchamment sur l'un des poteaux. Grosse frayeur, blessure au tibia, concours terminé. Son frère, Renaud, champion olympique 2012, s'en est mieux sorti. À 35 ans, il a fait parler son expérience, il a réussi. Renaud Lavillenie a passé 5,75 m, mais pas de 11e titre de champion de France en plein air. Il termine deuxième du concours derrière Thibaut Collet. Un Renaud frustré, énervé.
Le vent a été clairement notre pire ennemi aujourd'hui. Il a fallu se battre. Après, c'est un championnat de France, donc quoi qu'il arrive, on n'est pas là pour bâcher, mais c'est vrai que c'était assez compliqué. Forcément, je ne peux pas être satisfait d'être deuxième. À un moment donné, dans ma tête, même si ce n'est pas mon habitude, j'étais vraiment en train de me dire « Tu vas prendre la voiture plus tôt que prévu et être à la maison bien plus tôt. » Quand il y a du vent, et notamment du vent comme ça à la perche, c'est la loterie et tu peux te retrouver à être entre guillemets le chat noir. Et conditions comme ça, c'est comme si on jouait à la roulette russe. Hein, on tourne la roue et puis hop.
Une partie de loterie, Renaud Lavillenie n'aime pas perdre, on l'a compris. Il aura à cœur de rebondir dans 3 semaines au championnat du monde à Eugene. Aux États-Unis. Il y retrouvera notamment Thibaut Collet, qu'il a donc devancé ce dimanche. 5,75 m comme lui, mais vainqueur au nombre d'essais. Thibaut, 23 ans, champion de France en salle cet hiver, champion de France en plein air désormais. Non, on ne peut pas parler seulement de loterie.
Je suis content parce que ça confirme ma saison d'hiver, ça confirme aussi mon début de saison d'été. Je suis arrivé champion de France et meilleur performeur français et je repars avec le titre de champion de France, c'était vraiment important. C'était hyper stressant aussi, je vous cache pas. C'était des conditions pas top, mais on a dû s'adapter, on a dû sauter. Bon, c'est pas de la loterie, c'est de la maîtrise aussi de franchir ses barres, mais le titre est là, c'est l'essentiel.
À la fin du concours, on a pu voir Thibaut Collet tomber dans les bras de son père, Philippe, qui l'a encouragé tout l'après-midi. Entraîneur, papa, confident, Philippe Collet, ancien perchiste, ancien champion, multiple champion de France à la fin des années 80, 5e des Jeux Olympiques de Séoul en 88. Fier de son fiston.
Enchaîner un titre de champion de France cet hiver et être champion de France à nouveau cet été, c'est pas évident. Il n'y a pas énormément de perchistes qui l'ont fait, hein, à part Renaud, bien évidemment. Et ça a été un petit peu tactique aussi. À la sortie, c'est génial, quoi. Il est champion de France, ça confirme. Il est sur une très bonne dynamique. Donc maintenant, il va pouvoir préparer sereinement et calmement les championnats du monde qui ont lieu dans 4 semaines.
Philippe Collet qui félicite Thibaut, mais qu'on a vu aussi devoir réconforter son autre fiston, Mathieu, qui était également dans le concours. 3 échecs à 5,30 m, 0 pointé.
On termine ce journal des sports avec le Grand Prix de moto aux Pays-Bas et victoire pour le pilote italien Francesco Bagnaia. Parti en pole position, il a effectué une course en solitaire, seul au monde. Cette victoire lui permet de revenir à la quatrième place du classement du championnat du monde alors qu'il était reparti bredouille des deux derniers Grands Prix en Catalogne et en Allemagne. L'histoire n'est pas aussi rose pour Fabio Quartararo, deux chutes pour le Français de 23 ans qui l'ont contraint d'abandonner. Un résultat décevant pour le tenant du titre de champion du monde. Voilà, c'était le journal des sports de ce mardi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.